Chapitre 14. Puis il y eut Christina Thomas. Christina Thomas, avec ses traits fades, ses yeux d'un bleu délavé, ses cheveux décolorés et sa peau pâle. Christina Thomas, assise au comptoir d'accueil avec un sourire. Christina Thomas, dont les collants blanchâtres donnaient à ses jambes un aspect macabre. Il faisait chaud. Ifemelu était passé devant des étudiants allongés sur les pelouses vertes. Une grappe de joyeux ballons était attachée sous une banderole « Bienvenue aux nouveaux ».
Bonjour, est-ce ici que l'on s'inscrit ?
Demanda Ifemelu à Christina Thomas, dont elle ne connaissait pas encore le nom.
« Oui, maintenant, êtes-vous une étudiante internationale ?
Oui.
Vous devez d'abord avoir une lettre du bureau des étudiants internationaux. »
Ifemelu esquissa un sourire de sympathie car Christina Thomas devait souffrir d'un genre de maladie qui l'obligeait à ralentir son élocution, à contracter et avancer les lèvres pendant qu'elle lui indiquait la direction du bureau des étudiants internationaux. Mais quand Ifemelu revint avec la lettre, Christina Thomas dit
« J'ai besoin que vous remplissiez deux formulaires. Vous savez comment les remplir ?»
Et elle comprit que Christina Thomas parlait ainsi à cause d'elle, de son accent étranger, et elle se sentit un instant pareille à une enfant, ralentie et balbutiante.
« Je parle anglais, » dit-elle.
« J'en suis sûre, » dit Christina Thomas, « mais j'ignore simplement si vous le parlez bien. »
Ifemelu se contracta. Dans cet instant tendu où ses yeux croisèrent ceux de Christina Thomas avant de prendre les formulaires, elle se contracta. Elle se replia sur elle-même comme une feuille morte. Elle avait parlé anglais toute sa vie, animé le club de débat au lycée, et toujours pensé que l'accent nasal américain était fruste. Elle n'aurait pas dû se redire ainsi, mais c'est ce qu'elle fit. Et dans les semaines qui suivirent, tandis que tombait peu à peu la fraîcheur de l'automne, elle s'entraîna à prendre un accent américain. Les études en Amérique étaient faciles. Le travail à la maison était envoyé par e-mail, les professeurs prêts à faire passer des tests de rattrapage. Mais Ifemelu n'était pas à son aise avec ce que les professeurs appelaient « participation » et ne comprenait pas pourquoi ce devait être pris en compte pour la note finale. C'était une simple incitation pour les étudiants à parler et parler du temps perdu en classe à discuter de mots évidents, de mots creux, parfois de mots dépourvus de sens. Cela venait sans doute du fait que les Américains étaient formés, depuis l'école primaire, à toujours dire quelque chose en classe, peu importe quoi. Elle restait donc bouche cousue parmi les étudiants, tous confortablement affalés sur leur siège, tous débordant de savoir, non sur le sujet du cours, mais sur la façon de se comporter durant le cours. Il ne disait jamais « je ne sais pas », il disait « je n'en suis pas sûr », ce qui ne fournissait aucune information mais suggérait une possibilité. Et ils marchaient d'un pas tranquille, ces Américains, ils marchaient sans rythme. Ils évitaient de donner directement des instructions. Ils ne disaient pas « allez demander à quelqu'un en haut », ils disaient « vous pourriez demander à quelqu'un en haut ». Si vous trébuchiez et tombiez, si vous vous étrangliez, s'il vous arrivait malheur, il ne disait pas « désolé ». Il disait « ça va ?» alors qu'il était évident que ça n'allait pas. Et si vous leur disiez « désolé » quand ils s'étranglaient ou trébuchaient, ou qu'ils jouaient de malchance, ils répondaient, les yeux écarquillés de surprise, « oh, ce n'est pas votre faute ». Et ils faisaient un usage inconsidéré du mot « excité ». Un professeur était excité par un nouvel ouvrage, un étudiant était excité par un cours, un homme politique à la télévision était excité par une loi. Cela faisait au total bien trop d'excitation. Certaines expressions qu'elle entendait tous les jours la stupéfiaient, la choquaient, et elle se demandait ce que la mère d'Obinze en aurait pensé.
« Tu dois pas faire ça! Qu'est-ce que tu manges? Un jour de plus! Faut que tu arrêtes !»
Ces Américains ne savent pas parler, oh!
dit-elle à Obinze. Le premier jour, elle était allée au dispensaire et avait contemplé un peu trop longtemps le casier rempli de préservatifs gratuits dans un angle de la pièce. Après l'examen médical, la réceptionniste lui avait dit « Vous êtes fin prête ?» Et elle, muette, se demanda ce que voulait dire « fin prête », puis présuma que cela signifiait qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait. Elle se réveilla tous les matins craignant d'être à court d'argent. Si elle achetait tous les livres dont elle avait besoin, il ne lui en resterait pas suffisamment pour payer son loyer, donc elle empruntait les manuels pendant les cours et prenait fiévreusement des notes qui, quand elle les relisait par la suite, lui paraissaient parfois confuses. Sa nouvelle camarade de classe, Samantha, une jeune femme mince qui évitait le soleil en disant « Je brûle facilement », lui permettait de temps en temps d'emporter un livre chez elle. « Garde-le jusqu'à demain et prends des notes si t'en as besoin », disait-elle. « Je sais que ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'ai abandonné l'université pour travailler il y a des années. » Samantha était plus âgée et l'avoir pour amie réconfortait Ifemelu car elle était différente de toutes ces filles de 18 ans à l'air stupide qui préparaient comme elle une maîtrise de communication. Pourtant, Ifemelu ne gardait jamais les livres plus d'un jour et refusait parfois de les emporter chez elle. Devoir demander la mortifiait. Après les cours, elle s'asseyait sur un banc dans le square du campus et regardait les étudiants passer devant la grande sculpture grise érigée au milieu. Ils semblaient tous avoir la vie qu'ils désiraient. Ils pouvaient avoir un job s'ils voulaient avoir un job, et au-dessus d'eux flottaient tranquillement des petits drapeaux accrochés aux réverbères. Elle était avide de tout connaître de l'Amérique, d'entrer au plus vite dans sa nouvelle peau, savoir quelle équipe encourager au Super Bowl, savoir ce qu'était un Twinkie, ce que « lockout » signifiait dans le sport, être capable de mesurer en onces et en pieds carrés, commander un muffin sans croire qu'il s'agissait d'un gâteau et dire « j'ai mégoté » sans avoir l'air stupide. Obinze lui suggéra de lire des livres américains, des romans, des ouvrages historiques et des biographies. Dans le premier email qu'il lui envoya, un cybercafé venait juste d'ouvrir à Nsuka, il lui donna une liste de livres. « La prochaine fois le feu » de James Baldwin était le premier. Elle s'attarda devant les rayonnages de la bibliothèque et feuilleta le premier chapitre, s'attendant à s'ennuyer. Mais elle se dirigea lentement vers un canapé, s'assit et continua à lire jusqu'aux trois quarts du livre. Puis elle s'arrêta et prit tous les James Baldwin qui étaient en rayon. Elle passait ses heures de loisir à la bibliothèque, si parfaitement éclairée. Les rangées d'ordinateurs, les espaces de lecture vastes, clairs et propres, le lustre chaleureux de l'ensemble, étaient signes à ses yeux d'une décadence coupable. Elle était habituée, il est vrai, à lire des livres où il manquait des pages à force d'être passée de main en main. Et elle se promenait aujourd'hui parmi une multitude de livres au dos robuste. Elle envoya à Obinze ses commentaires sur les romans qu'elle lisait, de belles lettres soigneusement écrites qui ouvraient entre eux une nouvelle intimité. Son désir d'intégrer l'université d'Ibadan à cause d'Ibadan l'avait intriguée. Comment un mot pouvait-il donner à quelqu'un l'envie d'aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas? Mais au cours des semaines où elle découvrit tous ces livres avec leur odeur de cuir et leur promesse de plaisir inconnu, quand elle s'asseyait, les genoux ramenés sous elle, dans un fauteuil du niveau inférieur ou à une table du haut, la lumière du néon se reflétant sur les pages, elle comprit. Elle lut ceux de la liste d'Obinze, mais aussi, au hasard, sortit des livres des rayonnages, l'un après l'autre, parcourant un chapitre avant de choisir celui qu'elle lirait rapidement sur place et celui qu'elle emprunterait. Et au fur et à mesure de ses lectures, les mythologies américaines commencèrent à avoir un sens. Les tribalismes américains, race, idéologie et région, se clarifièrent, et sa nouvelle compréhension des choses la réconforta.
Tu sais que tu as dit excité ? Lui fit remarquer Obinze un jour d'un ton amusé. Tu as dit que tu étais excité par ton cours sur les médias.
Vraiment ?
Des mots nouveaux sortaient de sa bouche. Des colonnes de brouillard se dissipaient. Au pays, elle lavait ses sous-vêtements tous les soirs et les suspendait dans un endroit discret. Maintenant qu'elle les entassait dans un panier et les fourrait dans la machine à laver le vendredi soir, elle en était venue à trouver normal ses piles de linge sale. Elle prenait la parole en classe, confortée par ses lectures, ravie de pouvoir être d'un avis contraire à celui de ses professeurs et d'obtenir en retour, non pas une remontrance parce qu'elle s'était montrée irrespectueuse, mais un hochement de tête encourageant.
« Nous regardons des films en classe, » dit-elle à Obinze. « Ici, les films sont considérés comme aussi importants que les livres. Nous voyons des films et ensuite nous écrivons un compte-rendu et presque tout le monde obtient un A. Tu imagines ? Ces Américains ne sont pas sérieux, oh ?»
Dans son cours d'histoire, la professeure Moore, une petite femme timide à l'air dépourvue d'émotions de ceux qui n'ont pas d'amis, projeta quelques scènes de Racine dans l'obscurité. Quand elle éteignit le projecteur, une tache blanche fantomatique flotta sur le mur pendant un moment avant de disparaître. Ifemelu avait déjà vu Racine en vidéo avec Obinze et sa mère, affalée sur les canapés de leur salon à Tsuka. Au moment où Kunta Kinte est fouettée jusqu'à ce qu'il accepte son nom d'esclave, la mère d'Obinze s'était levée si brusquement qu'elle avait failli trébucher sur un pouf en cuir et elle avait quitté la pièce, non sans Ifemelu et vu qu'elle avait les yeux rouges. Elle s'était étonnée que la mère d'Obinze, qui se contraignait à toujours rester maîtresse d'elle-même, à préserver son intimité, puisse pleurer en regardant un film. À présent, au moment où on relevait les rideaux et où la classe était à nouveau plongée dans la lumière, Ifemelu se souvint de ce samedi après-midi. Elle se rappela combien elle s'était sentie déconcertée à la vue de la mère d'Obinze et qu'elle aurait souhaité pouvoir pleurer, elle aussi.
Parlons de la représentation historique au cinéma, disait la professeure Moore.
Une voix féminine décidée s'éleva du fond de la classe avec un accent qui n'était pas américain et demanda « Pourquoi le mot nègre a-t-il été occulté par un bip ?» Un soupir collectif, tel une légère brise, traversa la salle.
« Écoutez, c'est un enregistrement effectué lors d'une diffusion du film à la télévision et l'une des choses dont je voulais discuter avec vous est la représentation de l'histoire dans la culture populaire. Et l'utilisation du mot est un aspect important de ce sujet, » dit la professeure Moore.
« Ça n'a aucun sens pour moi, » dit la voix décidée. Ifemelu se retourna. La fille qui parlait avait des cheveux naturels, coupés aussi courts que ceux d'un garçon, et son joli visage émacié au grand front rappela à Ifemelu les Africains de l'Est qui gagnaient toujours les courses de longue distance à la télévision.
« Pour moi, nègre est un mot qui existe. Les gens l'utilisent. Il fait partie de l'Amérique. Il a causé beaucoup de souffrance et je pense que c'est insultant de l'occulter. »
« Bien, » dit la professeure Moore regardant autour d'elle comme si elle cherchait de l'aide. Elle vint d'une voix rocailleuse au milieu de la salle.
« Bon, c'est à cause de la souffrance que ce mot a provoqué que vous ne devriez pas l'utiliser. »
Le « devriez pas » claqua dans l'air. L'auteur de ces paroles était une afro-américaine qui portait de grands anneaux de bambou aux oreilles. « Le problème, c'est que chaque fois qu'il est utilisé, le mot blesse les afro-américains, » dit un garçon pâle aux cheveux hirsutes. Ifemelu leva la main. « Lumière d'août » de William Faulkner qu'elle venait de lire était présente à son esprit. « Je ne pense pas qu'il soit toujours blessant. Je pense que cela dépend de l'intention et de la personne qui l'utilise. » Une fille près d'elle, soudain toute rouge, s'écria « Non ! Le mot est le même quel que soit celui qui le prononce ! C'est absurde !»
La voix décidée à nouveau, une voix sans peur. « Que ma mère me frappe avec un bâton ou qu'un étranger me frappe avec un bâton, ce n'est pas pareil !»
Ifemelu regarda la professeure Moore pour voir comment elle avait réagi au mot « absurde ». Elle ne semblait pas l'avoir remarqué. Mais une vague terreur figeait ses traits en un petit sourire satisfait.
D'accord, ce n'est pas la même chose dans la bouche des Afro-Américains, mais je crois qu'il ne faudrait pas l'utiliser dans des films, car des gens qui ne devraient pas l'employer peuvent le prononcer et heurter les sentiments d'autres personnes,
dit une autre fille, la dernière des quatre noires de la classe, une Afro-Américaine qui arborait un pull d'une déconcertante couleur fuchsia.
Mais c'est s'enfermer dans un déni. Si on l'a utilisé comme ça, alors il faut le représenter comme ça. Le cachet ne le fera pas disparaître.
La voix décidée.
Bon, si vous autres ne nous aviez pas vendus, nous ne serions pas en train de parler de tout ça.
Dit l'afro-américaine à la voix rocailleuse, d'un ton plus bas mais néanmoins perceptible. Le silence plana dans la salle de cours. Puis la même voix s'éleva à nouveau.
Désolé, mais même si aucun Africain n'avait été vendu par d'autres Africains, le commerce des esclaves à travers l'Atlantique se serait quand même développé. C'était une entreprise européenne. Il s'agissait pour les Européens de trouver des travailleurs pour leurs plantations.
La professeure Moore les interrompit d'une petite voix.
Très bien.
Parlons maintenant de la manière dont l'histoire peut être sacrifiée au profit du divertissement. Après le cours, Ifemelu et la voix décidée se dirigèrent l'une vers l'autre.
Salut, je m'appelle Wambui. Je suis originaire du Kenya. Tu es nigériane, n'est-ce pas?
Elle avait un aspect imposant, l'air de quelqu'un chargé de remettre de l'ordre dans le monde, les personnes et les choses.
Oui, je m'appelle Ifemelu.
Elles se serrèrent la main. Elles allaient, au fil des semaines suivantes, nouer une amitié durable. Wambui était la présidente de l'Association des étudiants africains.
« Tu ne connais pas l'AEA ? Il faut que tu viennes à la prochaine réunion, jeudi, » dit-elle.
Les réunions se tenaient dans le sous-sol du Wharton Hall, une salle mal éclairée, sans fenêtres, où boîtes de pizza, assiettes en carton et bouteilles de soda s'empilaient sur une table métallique autour de laquelle des chaises pliantes étaient placées en un vague demi-cercle. Il y avait des Nigérians, des Ougandais, des Kenyans, des Ghanéens, des Sud-Africains, des Tanzaniens, des Zimbabwéens, un Congolais et une Guinéenne. Tous assis autour de la table, ils mangeaient, bavardaient, entretenaient la bonne humeur et leurs différents accents formaient un tohu-bohu rassurant. Ils parodiaient ce que leur disaient les Américains.
« Vous parlez un si bon anglais ?
Est-ce que vous avez un grave problème de sida dans votre pays ? C'est tellement triste que des gens vivent avec moins $1 par jour en Afrique. » Et eux-mêmes se moquaient de l'Afrique, échangeant des histoires d'absurdité, de stupidité, et ils se sentaient libres de se moquer parce que leur dérision était née du regret et du désir désespéré de retrouver un endroit qui leur appartienne. Ici, Ifemelu éprouvait une agréable, pénétrante impression de renouveau. Ici, elle n'avait pas besoin de se justifier. Wambui avait dit à la ronde qu'Ifemelu cherchait du travail. Dorothy, la friolante Ougandaise aux longues tresses qui était serveuse au Center City, dit que son restaurant embauchait. Mais d'abord, Mwambeki, un étudiant tanzanien qui suivait un double cursus d'ingénieur et en sciences politiques, jeta un coup d'œil au curriculum vitae d'Ifemelu et lui demanda d'éliminer les 3 années d'université au Nigeria. Les employeurs américains n'aimaient pas que leur personnel soit trop éduqué. Mwambeki lui rappelait Obinze, son aisance, sa force tranquille. Dans les réunions, il faisait rire tout le monde.
« J'ai pu aller dans une bonne école primaire grâce au socialisme de Nyerere », disait-il souvent. « Sinon, je serais à Dar en ce moment, en train de sculpter des girafes pour les touristes. »
Quand 2 nouveaux étudiants se présentèrent pour la première fois, l'un venant du Ghana et l'autre du Nigeria, Mwambeki leur adressa ce qu'il appelait le discours de bienvenue.
« Je vous en prie, n'allez pas au Kmart acheter 20 jeans sous prétexte qu'ils ne coûtent que $5. Les jeans ne vont pas se sauver. Ils seront là encore demain, à un prix encore plus bas. Vous êtes en Amérique. Ne vous attendez pas à manger chaud au déjeuner. Cette habitude africaine doit être abolie. Quand vous rendez visite à un Américain qui a un peu d'argent, il vous proposera de visiter sa maison. Oubliez que chez vous, en Afrique, votre père ferait une attaque si quelqu'un s'approchait de sa chambre à coucher. Nous savons tous que la visite s'arrêtait au salon, éventuellement aux toilettes. Mais je vous en supplie. Souriez et suivez l'Américain, visitez sa maison et n'oubliez pas de dire que tout vous plaît. Et ne soyez pas choqués de voir les couples américains passer leur temps à se toucher. Dans la queue, à la cafétéria, la fille prendra le bras du garçon. Le garçon passera son bras autour des épaules de la fille,
Ils se tiendront épaule contre épaule et se frotteront, frotteront, frotteront l'un contre l'autre. Mais par pitié, ne les imitez pas. Ils se tordaient de rire. Wambui cria quelque chose en swahili. Vous allez très vite adopter l'accent américain parce que vous ne voulez pas que les gens du service client au téléphone vous demandent sans arrêt « Quoi ? Quoi ?» Vous commencerez à admirer les Africains qui ont un accent américain parfait, comme notre frère Kofi ici. Les parents de Kofi sont arrivés du Ghana quand il avait 2 ans. Mais ne vous laissez pas tromper. Si vous allez chez lui, il mange tous les jours du kenke. Son père l'a giflé quand il a eu un C en classe. On ne plaisante pas dans cette maison. Il retourne au Ghana chaque année. Nous appelons les gens comme Kofi des Américains africains et non des Afro-Américains, comme nos frères et sœurs dont les ancêtres étaient des esclaves. C'était un B-, pas un C, rectifia Kofi. Tâchez de vous lier avec nos frères et sœurs afro-américains, dans un véritable esprit de panafricanisme. Mais assurez-vous de rester amis avec vos camarades africains, ce qui vous aidera à garder les choses en perspective. Continuez d'assister aux réunions de l'Association des étudiants africains. Mais s'il le faut, vous pouvez essayer le syndicat des étudiants noirs. Notez qu'en général, les afro-américains adhèrent au syndicat des étudiants noirs et les africains à l'Association des étudiants africains. Les deux se recoupent parfois, mais pas beaucoup. Les Africains qui sont membres du SEN manquent d'assurance et vous disent presque aussitôt « Oh, je suis au départ originaire du Kenya », même si le Kenya déboule à la minute où ils ouvrent la bouche. Les Afro-Américains qui viennent à nos réunions écrivent des poèmes à notre mère, l'Afrique, et pensent que chaque Africaine est une reine de Nubie. Si un Afro-Américain vous appelle « Mandigo » ou vous traite de peau de fesse, il vous insulte parce que vous êtes Africain. Certains vous poseront des questions dérangeantes à propos de l'Afrique. Mais d'autres s'entendront avec vous. Vous découvrirez aussi que vous pouvez vous lier plus facilement avec d'autres expatriés, coréens, indiens, brésiliens, peu importe, qu'avec des Américains noirs ou blancs. Beaucoup d'expatriés comprennent toute la difficulté d'essayer d'obtenir un visa américain et c'est une bonne façon de se lier d'amitié. Les rires redoublèrent. Mwambeki riait lui-même de bon cœur, comme s'il entendait pour la première fois ses propres plaisanteries. Plus tard, en quittant la réunion, Ifemelu pensa à Dike, se demandant à quelle association il adhérerait quand il serait à l'université, SEN ou AEA, et s'il serait considéré comme un Américain-Africain ou un Afro-Américain. Il aurait à choisir ce qu'il était, ou plutôt, on ferait le choix pour lui. Ifemelu pensa que l'entretien au restaurant où travaillait Dorothy s'était bien passé. C'était une place d'hôtesse et elle avait mis son joli chemisier, sourit d'un air engageant, serré fermement la main. La gérante, une femme au rire facile, manifestant une irrépressible joie de vivre, lui dit « Formidable ! C'était merveilleux de m'entretenir avec vous. Je vous donnerai rapidement des nouvelles. » Si bien que, lorsque le téléphone sonna, elle décrocha aussitôt, espérant qu'il s'agissait d'une proposition d'engagement. « Ifem, Kadou ! » dit Tante Uju. Tante Uju appelait trop souvent pour demander si elle avait trouvé du travail. « Tante, tu seras la première avertie quand j'aurai trouvé !» avait dit Ifemelu lors de son dernier appel la veille, et voilà que Tante Uju appelait à nouveau. « Très bien !» dit Ifemelu, et elle était sur le point d'ajouter « Je n'ai encore rien trouvé !» quand Tante Uju dit « Il s'est passé quelque chose avec Dike. » « Quoi ?» Miss Brown m'a dit qu'elle l'avait trouvé dans un placard avec une gamine qui est en CE1. Apparemment, ils se montraient leurs parties intimes. Suivit un silence. C'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Il n'a pas encore 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce pour cela que je suis venue en Amérique ? Nous avons lu quelque chose à ce sujet à un de mes cours l'autre jour, c'est normal. Les enfants sont curieux de ces choses-là quand ils sont très jeunes. Mais ils ne comprennent pas vraiment. Normal, quoi ? Ce n'est pas du tout normal. Tante, nous étions tous curieux quand nous étions petits. Pas à 7 ans. Tout fia quoi ? Qui lui a appris ça ? C'est cette garderie où il va. Depuis qu'Alma est partie et qu'il est chez Miss Brown, il a changé. Avec tous ces enfants infernaux qui n'ont reçu aucune éducation chez eux, il apprend tout et n'importe quoi. J'ai décidé de m'installer dans le Massachusetts à la fin de ce semestre. 1-1.
Je vais terminer mon internat là-bas et Dickey ira dans une meilleure école et une meilleure garderie. Bartholomew va quitter Boston pour une petite ville, Warrington, et y créer son affaire. Ce sera un nouveau départ pour nous deux. Il y a une très bonne école primaire là-bas. Et le docteur du coin cherche un associé parce que sa clientèle s'accroît. Je lui ai parlé et il est intéressé par ma proposition de travailler avec lui quand j'aurai terminé.
Tu quittes New York pour aller vivre dans un village du Massachusetts?
Tu peux quitter l'internat juste comme ça?
Bien sûr.
Mon amie Olga, celle qui vient de Russie, s'en va aussi, mais elle sera obligée de redoubler une année. Elle veut se spécialiser en dermatologie et la plupart de nos patients ici sont noirs. Et elle dit que les maladies de peau ont un aspect différent sur une peau noire. Et comme elle sait qu'elle ne pratiquera pas dans un secteur noir, elle veut aller dans un endroit où les patients sont blancs. Elle n'a pas tort. C'est vrai que mon cursus donne une qualification plus élevée, mais parfois il y a plus d'opportunités dans des endroits plus petits. En outre, je ne veux pas que Bartholomew pense que je ne suis pas sérieuse. Je ne rajeunis pas. Je veux tenter un nouveau départ.
Tu vas vraiment l'épouser? Tante Uju feignit d'être exaspérée.
Ifem, je croyais que nous avions dépassé ce stade. Une fois que j'aurai déménagé, nous irons devant le juge et nous nous marierons, ce qui lui permettra d'être tuteur légal de Dickey.
Ifemelu entendit le bip-bip d'un appel entrant.
« Tante, je te rappelle plus tard, » dit-elle, et elle prit la communication. C'était la gérante du restaurant. « Je regrette, Ngozi, » dit-elle, « mais nous avons décidé d'engager quelqu'un de plus qualifié. Bonne chance !» Ifemelu raccrocha et pensa à sa mère qui s'en prenait souvent au diable. « Le diable est un menteur. Le diable veut nous empêcher d'avancer. » Elle contempla le téléphone, puis les factures sur la table, sentant l'angoisse oppresser sa poitrine.